marché. Oui.
Ça, on verra le. Voilà, il y en a trois.
Alors, chers amis, donc on redémarre la nouvelle saison de Speed Torah pour l'année 5778, y commence en Elul. Donc aujourd'hui, on va étudier un texte du Avodat Israël. Alors, le Avodat Israël, c'est un rabbi chassidique, on l'appelle, il est connu sous le nom de Magid de Koznitz. Le Magid, ça veut dire le narrateur, le conteur. Parce qu'avant, les Trachamim, ils se promenaient de communauté en communauté. Ils donnaient des shiurim. Bon, ça leur permettait aussi de gagner de l'argent parce qu'ils étaient dans des petits villages, ils étaient très pauvres. Et donc, ils allaient dans des communautés, on les payait pour faire des drachot. Des fois, on les payait, des fois, on ne les payait pas. Et donc, ils allaient d'endroit en endroit. Et on les appelait les Magidim, les raconteurs. Et donc, celui donc, qu'on connaît aujourd'hui, c'est, on l'appelle le Magid de Koznitz. Sa communauté, elle était à Koznitz. C'est un Talmid du Baal Shem Tov. Et son sévère, il s'appelle Avodat Israël en haut. Alors, beaucoup de Talmidim du Baal Shem Tov, dans le nom de leur livre, ils ont le mot Israël. Parce qu'Israël, c'est le nom de leur maître. Baal Shem Tov, Israël, Baal Shem Tov. C'est son nom, Israël. Donc, dans leur, à part le fait que c'était des gens qui aimaient beaucoup Israël, ouais. Eh bien, dans leur dans le titre de leur livre, souvent ils mettaient Israël. Par exemple, on avait vu le Oev Israël, le rabbi de Opta, le Tiferet Israël, etc. Et lui, c'est le Avodat Israël. Donc on le connaît comme ça. Son nom, c'est également Israël. Il s'appelle Israël Ben Shabtai, c'est le nom de son père. Et on l'appelle le Magid de Koznitz. En fait, personne ne connaît son nom, comme la plupart des grands auteurs. On le connaît sous le nom de Avodat Israël, le Magid de Koznitz. Alors, sur la paracha, donc la paracha qui Tetzé, on va étudier un petit morceau du début de la paracha qui parle de cette fameuse femme d'Ephah Torah. La femme captive qu'on va ramener chez soi et qu'on va tenter de convertir pour se marier avec elle. Bien que normalement, le Pipchat, on a eu le droit, d'après la Torah, d'aller avec elle sur le champ de bataille. Vous vous rappelez de ce problème? Alors, en vérité, c'est une vision chassidique de la famille factoire. Le Pshat, c'est le Pshat. Il ne changera jamais le Pshat. C'est-à-dire que la Torah, comme il dit Rashi, elle autorise cette femme factoire parce que c'est une sorte de concession qu'on fait au Yetzara, parce que sinon l'homme n'aurait pas pu résister dans des conditions particulières de guerre. Donc, on lui autorise ponctuellement d'aller avec cette femme sur le champ de bataille, mais une seule fois, pas plus. Et ensuite, si véritablement il tient à elle, il la ramène chez lui, et il fait tout le processus, etc. Éventuellement, au bout d'un mois, deux mois, il la convertit. Sinon, il devra la renvoyer chez elle. D'accord ? Donc ça, c'est le pshat. Le drash, on avait étudié une fois, si vous vous rappelez, ce qu'avait dit le Orachaim Akadosh. Pourquoi ? Parce que souvent, les chacham, ils partent directement dans le drash, dans les effets de Torah, parce que c'est tellement paradoxal. Cette idée-là de la concession Yetzara, qu'il faut comprendre, c'est quoi cette idée-là? Tu vois une femme, depuis quand on a vu? On voit une femme, c'est une Goya, on va l'épouser, etc. On sait se tenir quand même. C'est-à-dire, on n'a pas l'habitude que la Torah, elle s'exprime comme ça. Donc voilà pourquoi, en réalité, ça démarre du Zohar, mais on avait étudié, il y a un an ou deux ans, le Ora Chaim HaKadosh, qui dit qu'en réalité, cette idée de la Isha Yefat Tohar, vous vous rappelez, qu'est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Pourquoi est-ce qu'on pourrait autoriser quelqu'un de voir une Italienne, une Suédoise, une Espagnole dans le champ de bataille, dire « Ouh là 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 là, comme elle est extraordinaire cette femme-là, hop, et je vais la prendre, je vais marier qu'elle. » Je vais dire « Bon, c'est bizarre quoi, jamais on a vu ça dans la Torah. » Alors le Rahim dit qu'en réalité, la beauté de cette femme qui a attiré cet homme-là, c'est probablement la beauté d'âme, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il met en place des situations, et cette beauté d'âme, c'est que c'est en fait une âme perdue, puisqu'on sait que les fautes d'Adam Harishon ont fait perdre des Neshamot dans les nations, et qu'en réalité, tous les guérim qui viennent et qui se convertissent, ce sont des âmes anciennes qui réintègrent le Berkaï, ce sont des âmes anciennes qui se sont perdues, et que le principe de la Yefat Tohar, normalement les guérim, ils se convertissent tout seuls, ils ont besoin de personne, ils ont leur démarche et ils réintègrent. Mais parfois, il y a une âme qui est véritablement perdue, puisque cette Yefat Tohar, elle est même mariée. Parce que c'est marqué Eshet Yefat Tohar, Rashi dit c'est Eshetti, c'est une femme mariée. Et donc elle a du mal à s'extraire, ou elle n'a pas les kelim pour éventuellement se convertir. Donc c'est pour ça que la Torah, elle a mis en place ce système de la Yefat Tohar, pour aller repêcher des âmes perdues parmi les nations. D'accord ? C'est un système de repêchage. Donc bon, c'est vrai que c'est une vision un peu particulière. Et je vous répète encore, ça n'enlève pas le pshat. C'est la vision du Zohar, c'est la vision mystique des choses. Et il est fort possible qu'il y ait des gens qui le fassent suivant la vision mystique, ça veut dire on peut imaginer qu'il y a un grand Talmid Raham qui voit par exemple une âme perdue et qui disent « allez, je vais la récupérer ». On sait qu'il y a des choses comme ça. On sait par exemple qu'il y a des grands rabbanim qui se sont mariés avec des jeunes filles plus jeunes qu'eux, ou moins religieuses qu'eux, etc. Et qu'effectivement, c'était des même des juives. Et que c'était des repêchages. On peut imaginer qu'ils veulent repêcher une âme du non-juif, etc. Mais il n'empêche que le pshat, c'est le pshat. Et que le pshat, c'est le soldat avec la mitraillette et tout, et qui rencontre une jeune fille dont il s'amourache. D'accord ? C'est ça le pshat. Aujourd'hui, dans le Maguid de Koznitz, on va voir une explication un peu différente de celle du Or HaChaim et du Zohar, mais qui s'approche et qui est une explication mystique de ce principe de la Yefat Torah. Vous êtes bon ?
Oui.
Donc ça, c'était juste l'introduction. Alors, « Kitetze la milchama aloivecha » ou « Aremez » c'est une allusion « Shamarnu » qu'on a dit. Ça veut dire que, vous voyez, vous soulignez le mot allusion, ça veut dire que le Maguid dit que, attention, le cas de la Yefat Torah, on peut le regarder sur le plan du Remez. D'accord ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez quatre niveaux, le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Le Pshat, il reste le Pshat, il ne changera jamais le Pshat. Maintenant, ça ne veut pas dire que la Torah, en te disant un texte, elle te donne des allusions à d'autres sujets. D'accord ? Ça, c'est toujours difficile à comprendre. Un peu l'Avdil comme sur Remix Cube, ça veut dire que tu peux regarder sous différentes facettes. Et une facette n'enlève pas une autre. Pour nous, c'est très difficile de comprendre que la facette mystique, elle puisse s'articuler avec la facette pshat. Parce qu'en réalité, ce sont deux facettes totalement différentes. La facette mystique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la récupération d'une âme, etc. Alors que la facette pshat, c'est un pauvre type qui est pris par ses passions. Donc on a du mal à comprendre comment une facette peut aller avec une autre. Mais en réalité, le pshat, le remez, le drash et le sod, c'est comme des poupées russes qui doivent s'emboîter les unes dans les autres. Et en réalité, il y a un fil, un continuum, un fil conducteur qui va aller du pshat au remez, au drash et au sod. Donc lui, il te dit, le Maguid de Koznitz, que moi, je ne m'occupe pas du pshat, vous le connaissez le pshat, je vais faire le remez. C'est une allusion à un autre sujet. Ou à remez shama, c'est l'allusion à ce qu'on a dit. D'accord ? Ki ikar hamilchama, l'essentiel de la guerre. Nehemar, il est dit al Rosh Hashanah. Pour Rosh Hashanah, Resh et la troisième ligne, c'est Rosh Hashanah. Ça veut dire, il te dit tout de suite, sache, d'accord, toute cette histoire de la famille Yefat Torah, etc., ça parle de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on fait la guerre dans l'année contre les Tzara? C'est pendant le mois de Elul, avant Rosh Hashanah. C'est là qu'on lutte, qu'on remet en question les choses, d'accord. Donc, je te mets le contexte. Donc là, Ikar Hamilchama, Neymar al Rosh Hashanah. Il dit pourquoi? Dehu Yoma de Dina, parce que c'est le jour du jugement. Ça, tout le sait. Et alors, Vetzarir, et on doit, les Aharir Krav. C'est quoi, Haïm? Les Aharir Krav.
Les
Aharir Krav. Krav,
bon,
c'est rapproché, mais en vérité, c'est la guerre. D'accord, parce que c'est la guerre de rapprochement. Et les Aharir, ça vient du mot Arur, Shulchan Arur. On doit dresser la guerre au Milchama, Ima Yetzerara, avec le Yetzerara, ou Mare des Dinim, c'est une expression du Zohar, les maîtres du jugement, les Baal et Dinim, les ennemis, Mare Dinim. Bien. Ve Ikara Milchama, et l'essentiel de la guerre, ou à l'aider à Tchouva. Comment on fait la guerre? C'est par la Tchouva. Alors c'est aussi pour ça que je trouvais ce texte intéressant, parce qu'il donne une vision différente par rapport à la Tchouva, par rapport à Elul, vous allez voir. Mais Ikara Milchama, l'essentiel de la guerre contre le Yetzerara, ou à l'aider à Tchouva. C'est par la Tchouva. Il dit pourquoi? Chez Adam, Messim Alibo, parce que l'homme, il met dans son cœur, il met sur son cœur, la chouvre l'Hachem, de retourner vers Hachem, ô mir ato, soit par crainte, ô me'avato, soit par amour. D'accord ? C'est-à-dire que, en réalité, le mois de Elul, c'est le mois de la Tchouva. Bon, il y a des gens qui s'en foutent, hein, qui ne comprennent même pas qu'est-ce qui se passe, ils arrivent à Rosh Hashanah la main dans les poches. Ben, en général, on fait les slichot, le shofar, on se prépare. Mais en réalité, il dit qu'on peut faire Tchouva, ça veut dire qu'on peut se motiver pendant le mois de Elul, soit par amour pour Hachem, d'accord ? Parce qu'on l'aime, on a passé une bonne année, on a passé des bonnes vacances, on est heureux, on est content, et les Hagim, c'est bien. C'est pas qu'on a peur de Averot, on aime tellement Hachem qu'on dit, allez, j'ai envie de me rapprocher d'Hachem cette année, je vais faire des efforts particuliers, je vais étudier, il n'y a aucune angoisse. Ou bien Bir Ato, ou bien non. Si le type il a passé ses vacances à Jean Lépin, il a fait que des blagues, oui, alors il dit bon, c'est vraiment Rosh Hashanah, je commence à faire Tshuva Mir Ad, si j'ai passé une année un peu dure, Mir Ato. Ok ? Alors juste une remarque, pourquoi c'est marqué Raphaël Messim Alibo, on met sur son cœur. Pourquoi c'est marqué Messim Belibo, on met dans son cœur. Ouais, ça te dit quelque chose? Stam, c'est juste une petite remarque. Mais si Malibo, alors on avait déjà dit une fois au nom du rabbi de Kotz, il avait dit comme, à propos du schéma, Urtaftam al Mizuzot, tu l'écris, pardon, al Levavecha, tu mettras sur ton cœur. Il dit pourquoi c'est marqué sur ton cœur et pas dans ton cœur? Parce qu'il dit c'est très difficile de rentrer les choses dans son cœur, le cœur il est fermé. Alors, il dit la Torah ne te demande pas de mettre dans ton cœur, si tu arrives tant mieux. Mais si tu n'arrives pas, tu poses sur ton cœur. Et de temps en temps, le cœur, il s'ouvre. Il y a des moments où il s'ouvre. Si c'est posé dessus, alors ça rentre. La même chose. Qui c'est qui arrive, moi de Elul, au Rosh Hashanah, à faire rentrer dans son cœur la tchouva? C'est très difficile. On veut, on a la volonté. Mais faire rentrer dans le cœur, on ne peut pas. Alors il dit, tu sais quoi? Tu mets, tu poses sur ton cœur. C'est au niveau de l'esprit, au niveau du sechel. On sait que c'est Elul, c'est bientôt Rosh Hashanah, qu'on a des choses à corriger, qu'on aime Dieu, qu'on craint Dieu. Tout ça, c'est vrai. On le sait. Cycliquement, au niveau de l'esprit. Alors on met tout ça sur notre cœur, dans notre cœur, c'est-à-dire notre ressenti, on le pose, et puis, si ça se trouve, vendredi après-midi, ou lundi prochain, ou jeudi prochain, ou RF Rosh Hashanah, le cœur il va faire pouic, il va s'ouvrir, et du moment que c'est sur le cœur, alors ça va finir par rentrer. Voilà pourquoi c'est marqué Messim Ali. Donc il dit que la guerre, oui, alors en réalité, on va expliquer, bon, même si ça vous semble évident, son parallèle entre la guerre et la tchouva, il va l'expliquer. Viyesh lecha Adam. Donc il dit, on peut vouloir faire la guerre pour Rosh Hashanah, par amour ou par crainte. Mais yesh lecha adam, il y a des hommes, une troisième catégorie, Sheu Shav, qui revient, Shav c'est revenir, la Teshuvah, mi godel arachmanut, par sa grande pitié, ve agaguim, et les gaguim, en hébreu on traduit c'est les... Non, ouais, mais c'est quand on... Comment dire, j'ai des gagouim sur ma jeunesse, sur des gagouim, des souvenirs. Ouais, des souvenirs. Donc il a la pitié et le souvenir là, il a la comment on dit nostalgie. La nostalgie, Hazak Baruch. La pitié et la nostalgie à Magimli qui lui vient, à Nishmato pour son âme, chez Bekirbo qui est en lui. Ça veut dire qu'il y a des fois des gens qui ont une démarche particulière, d'accord, qui se disent bon. D'accord, monsieur David Walid ou monsieur Shlomo Ben Soussan, tu es bien, tu fais ta vie, tu fais tout ce qu'il faut. Mais Hachem, il t'a donné une âme, d'accord? Il t'a mis une âme qui était propre à l'âge de 13 ans, d'accord? Qu'est-ce que t'en as fait, cette âme-là? Elle est en toi. C'est l'âme B26, on a toujours expliqué qu'on a une âme qui est, qu'un jour il nous a donné cette âme pour la protéger, la faire grandir. Oui, alors des fois on se dit, purée, je l'ai bien abîmé cette âme. Des fois on se dit, je l'ai arrangé, j'ai fait des choses. Mais il dit, il y a des fois des gens, ils ont pitié de leur âme. Ils disent, t'as vu ce que j'ai fait, où j'ai amené ma neshama, où je l'ai amené. D'accord? Alors bon, il faut déjà avoir conscience qu'on a une neshama, et c'est pas toujours. Des fois on sait pas. Ça veut dire que la neshama, c'est qu'il faut arriver à dissocier sa personne de sa neshama. Notre personne, c'est on est le fils de notre père et notre mère. D'accord, on a un nefesh, une âme vitale, etc. Notre neshama, c'est donc comme un être humain du monde. Tous les êtres humains du monde, ça veut dire que, quelle que soit la nation dont on vient, on est le fils de nos parents. En plus, quand on est juif, on a une étincelle supplémentaire qui s'appelle la neshama. D'accord, c'est une sorte de batterie supplémentaire, qui est une petite batterie posée là, qu'on doit faire travailler. Des fois, on n'est même pas conscient qu'on a une neshama. Quelqu'un qui peut vivre, quelqu'un qui vit comme un goy, alors sa neshama, elle est éteinte, elle est là, sa batterie, elle est là, mais il a une vie. Il ne vit pas avec sa neshama ne s'exprime pas. D'accord? C'est quelque chose qu'on n'a pas conscience, parce que toujours on pense, je bois, je mange, je mets les tefilines, ben c'est ma neshama. Non, pas du tout. On peut passer sa vie de juif sans véritablement faire fonctionner sa neshama, ou on la fait fonctionner à 1%, 2%. D'accord? Bon, ça nécessiterait aussi d'être développé, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Et parfois, on peut avoir pitié de sa neshama, se dire, mais comment cette neshama-là? Il faut bien que je m'occupe d'elle. Oui. La Nishmato Shebekirbo, qui irrelek, parce que c'est une part Eloah divine, Mimaal supérieure, Ve'aita lema'ala, elle était en haut, chatsuva, creusée, tachat kisya kavod, ça c'est une abréviation, kisya kavod, sous le trône céleste. On sait que les neshamot, elles viennent d'en dessous le trône céleste d'Hachem, c'est une image en réalité, d'accord? Parce que Hachem, il n'a pas de corps, il n'y a pas de trône, il n'y a pas en haut, il n'y a pas en bas. Donc c'est une expression quand on dit l'âme, elle est creusée sous le trône céleste. Veshashu'ea yom yom. Et elle se délectait jour après jour dans le monde céleste. C'est bon, tu suis ?
Oui, c'est ça.
Veyarda. Et elle est descendue. Elle omek à bord azé, dans la profondeur d'un puits, les gouffres, le corps. Le chomer et la matière. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'elle est descendue de tout en haut, de tout en haut. Elle a fait une chute vertigineuse d'un million de kilomètres pour arriver dans un corps, d'accord, d'un petit Algérien, d'un petit Tunisien, ou d'un petit Ashkenaz, d'accord. Plouf. Et elle arrive là, et elle dit, mais qu'est-ce que je fiche là? Pourquoi? Il y a un tarlit. La sot nachat ruach, c'est l'abréviation, c'est pour faire plaisir les Yotzra, son créateur. En quoi? Qu'est-ce qu'elle a de plus l'âme en haut qu'en bas? Non. Kacher Yezaker, quand elle va purifier à Homer la matière, d'accord? Yaskim, et qu'il va être d'accord, la Ratson Aneshama, à faire la volonté de l'âme, la Sot Retson Konam, pour faire à deux la volonté de leur créateur, Vechefet Tsuram, et le désir de celui qui les a créés. Vous comprenez? Ok. Donc il vous a décrit en deux mots tout le parcours de la vie. On a l'anshama qui est sous le kisé à kavod, qui descend de façon vertigineuse dans un corps dans lequel elle n'a rien à faire, elle n'a aucun lien avec lui. C'est un peu la même problématique que le lien qu'Aviachol entre Akadosh Baruch Hu et le monde. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de matière et il fait vivre le monde. La même chose, on a une neshama qui arrive dans un corps dans lequel elle n'a rien à faire, elle est perdue, elle n'a pas de lien avec lui. Et en réalité, comment est-ce que le corps il fait le lien avec la neshama? Comment on peut faire le lien entre le corps et la neshama? C'est qu'est-ce qui fait le lien entre un corps et une neshama? Qu'est-ce qui te permet?
Les actions.
Les mitzvot, exactement. Parce que la mitzvah, c'est quelque chose qui est matériel et spirituel. Donc c'est ça qui permet à la neshama de s'attacher. Alors maintenant, les mitzvot, c'est le moyen. Et le but, c'est quoi? Le but, il l'a dit ici. Le but, c'est de faire en sorte que ce corps et cette âme vitale, ce nefesh, ce ruach, qui était neutre, qui était un corps et une âme d'un goy, ça veut dire qu'il n'y avait pas une identité particulière, d'accord, et qu'il n'avait pas une direction particulière, eh bien, par l'influence de la neshama et au moyen des mitzvot, ils se purifient, ils disent, allez, on accepte nous aussi d'aller dans la voie de la neshama, d'accord, et d'avoir un corps qui veuille faire les mitzvot. Et donc, c'est d'arriver à lutter contre les penchants, bon, tout ce qu'on connaît habituellement, ok? Ça, c'est le processus. Ve'ata, on est au point. Tout le monde suit?
Oui.
T'es bon, Raphaël?
Oui.
Benjamin?
Ve'ata,
ouais.
À la fin de
l'île. Au point.
Je l'ai trouvé.
Ah oui, l'abréviation, c'est Chas Ve'Shalom.
Chas Ve'Shalom.
Et maintenant, Chas Ve'Shalom, malheureusement, Kacher Era à Adam. Quand il a fait le mal, l'homme, alpene à Adama, à la face de la terre, il a fait des bêtises. Va yeler, et il est parti, bishrirut libo, dans la liberté de son cœur. Ouais, il a fait ce qu'il veut, il a dit à l'Anshama, toi tu me fiches la paix, à me donner des remords, je fais ce que je veux, c'est les vacances. Oy voy, malheur, c'est une expression, asher erimiad, il a levé la main, Neged, en face à Neshama Kedosha, de sa Neshama. Ouais, finalement, d'accord, donc c'est un regard tout à fait particulier sur un individu. D'accord. Faire une Avera, en vérité, c'est violenter quelque chose qui est en nous et qui était invité. D'accord. C'est-à-dire que quand on fait une Avera, c'est jamais la Neshama qui fait une Avera. La Neshama, elle est forcée à faire une Avera. Ve'ichnia, et on l'a fait plier. Tachat memshelet achomer, sous la domination de la matière, amutzrach, qui est putrescible, venitav, venelar, c'est des abréviations, et qui s'abîme. Alken, c'est pour cela. Ok. Donc, est-ce que vous sentez voir venir le remez? Donc, finalement, ta pauvre Neshama, oui, elle est chez toi captive. Ouais. Elle est chez toi enfermée. Ouais. D'accord? Et toi, tu abuses d'elle. Tu lui fais faire que des bêtises. D'accord? Et donc, elle est là, cette pauvre femme, cette pauvre Neshama, comme une captive. Très bien. Oh. Alken, vous sentez? Très bien. C'est pour cela. Mais à Raoui, il est normal. Alkolpanim, cependant, Odenu à Adam Chai, quand l'homme est encore vivant, entre guillemets, Bekoucho, avec sa force, ça veut dire quand il a encore les moyens, d'accord? Yassim El Libo, il doit mettre vers son cœur la chouve de revenir, les active acharito pour arranger sa fin. Ça veut dire qu'il doit corriger les choses, oui, et il doit finalement réparer le mal qu'il a fait à cette pauvre femme. Vezé aderer. Et cette voie-là, la voie du retour, la voie de la réparation, Ramza lanoua Torah, elle nous a fait une allusion, la Torah, Bakatouf dans le verset qui dit, Veraïta bashivia, tu verras parmi les captifs, Eshet yefatoar, une femme de beau visage, Vechashak taba, et tu la désireras. Donc il dit, revenons à notre paracha. On a dit notre paracha, Kitetse la minchama, tu sors en guerre. C'est quand la guerre, il a dit en haut, c'est pour Rosh Hashanah. Tu sais quoi, tu sors en guerre pour Rosh Hashanah? C'est-à-dire, tu décides, voilà, tu écoutes des shiurim, c'est Elul, tu reviens au Beit HaLimoud. Allez, ça y est, on va se remettre en marche. Maintenant, dans ce que tu fais, tu dis, allez, je commence à étudier, je commence les tefillin, je commence le sil, les shabour, tout. Puis à un moment, tu dis, d'accord. Mais dans ce tas-là de tout truc, il y a quand même, je vois une jolie fille, d'accord, qui a été maltraitée. C'est qui? C'est ma propre Neshama. Ma propre Neshama. Donc, il dit en réalité, vous voyez, qu'on peut faire tchouva par amour. Par amour pour Hachem. À 14 jours, tu m'as protégé, j'ai passé de bonnes vacances, je fais tchouva. Très bien. Par crainte. Oh là là, j'ai peur cette année là, j'ai des examens, j'ai des trucs, mes enfants, mais si c'est ça, d'accord. Troisième mode de tchouva vers Hachem, troisième mode d'approche du mois de Elul, c'est de se rendre compte que finalement, bon, il faut une prise de conscience qui est quand même très, très grande, mais se dire finalement, bon, voilà, maintenant j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça dépend de l'âge, cette Neshama, qu'est-ce que j'en ai fait? Il serait temps maintenant que cette Neshama qui est captive en moi, que je l'améliore. D'accord? Et c'est ça la belle femme qu'on voit sur le champ de bataille. D'accord? C'est difficile, et c'est pas donné à tout le monde, d'apercevoir cette femme captive sur le champ de bataille. Vous voyez? Ou Piresh Rashi, il a expliqué Rashi, mais dirtiv. Vous êtes bon au point? Tout le monde est? Chaim?
Oui.
Benyamin?
Oui.
Mais dirtiv, puisqu'il est écrit Eshet Besamour, le mot Eshet Yefatoar et pas Isha, ça veut dire que c'est un mot lié.
Eshet, c'est la sa femme.
Non, Gaïnou, Eshet Shel Ish, c'est une forme construite, c'est la forme d'un homme. Ah. Quand on dit Eshet Yefatoar, ça veut dire, on aurait pu dire Isha Yefatoar. Rashi dit pourquoi c'est marqué Eshet Yefatoar, pour nous dire que c'était une femme même mariée. Que Alpipshat, d'accord, même si cette femme était mariée, tu pouvais la prendre. Maintenant, Alpi Remez, dans le Remez, dans l'allusion, qui est le mari de cette femme-là? Qui est le mari? Pirouche Ish, qui est cet homme? C'est Akadosh Baruch Hu. Parce que cette femme-là, en vérité, elle était mariée, elle était unie avec Akadosh Baruch Hu. Et toi, tu l'as capturée, tu l'as enfermée.
L'âme, là.
Voilà. Vers Neshama, et la Neshama, Nikret Matronita. On l'appelle la Matronita, c'est un mot.
Ah, c'est marrant.
C'est la matrone en latin, mais ça veut dire la princesse. Vi yefatoar. Yud petav, c'est yefatoar. Et elle est belle. Mikdushata, par sa sainteté. Vi beshivia. Et elle est captive. Oui. Donc c'est pour ça que je trouvais tout à fait intéressant cette vision où il a complètement renversé l'histoire. Au lieu de nous présenter la suédoise qui nous l'a. Il dit mais non, c'est la Kdusha. La yefatoar, c'est l'âme sainte. Et alors, comment il va avancer là-dedans?
C'est incroyable.
Vechashak taba, tu la désireras. Quel type de désir on a? D'ailleurs, c'est-à-dire, comment on peut désirer cette captive? She'ichmeru, elles vont se ramollir. Rachamecha, ta pitié, aléa sur elles. Az, alors, belakarta alecha leisha, tu la prendras pour toi comme femme. Tu vas décider d'en faire ton épouse. Ça veut dire tu vas décider de t'attacher à elle. Tu vas dire, ça suffit que cette neshama, je la laisse pourrir dans un coin de ma poche. Je vais maintenant m'unir à elle. Je veux m'occuper d'elle. Je veux l'arranger. Je veux faire du bien à ma neshama. Ok? Mais la carta alecha leisha, c'est-à-dire, chez Efshar, c'est possible, allié des tchouva, par la tchouva, mais omka de liba, de la profondeur du cœur, la chouve de revenir, le karta leisha, et de la prendre comme femme. Tu peux l'épouser. On t'autorise à l'épouser. Omnam, cependant, alpi atnaim, il faut des conditions. Quelles sont les conditions que la Torah a dit? Alors, eh ben, il y a tout le processus. C'était quoi les conditions d'Aïfa Toar? Tu te rappelles?
Couper les ongles, couper les
cheveux. Elle se rase les cheveux, elle laisse pousser ses ongles, et elle pleure pendant un mois son père et sa mère. Tu te rappelles de ça? Et après, voilà. Vigilcha et Rocha, elle se rasera la tête. C'est quoi raser la tête pour une Neshama? Dainu, c'est-à-dire Réchit Hatshuva. Le début de la Tshuva. Je suis 4 lignes avant la fin du premier paragraphe. La sot le atzmo se yagim, c'est de se faire des barrières. L'ifroche mimutarot, de se séparer des choses superflues dans la vie. Ki im ta'avatagouf, que ce soit les désirs du corps. Yan ig, on doit se comporter al tzad echear, uniquement sur l'indispensable. Ça veut dire, bien sûr, il faut manger, boire, faire du squat, s'amuser, tout ça. Mais ce qui est nécessaire, d'accord? Dormir, rigoler, mais seulement ce qui est nécessaire. Dormir. Et les cheveux trop longs, d'accord? Les cheveux, on en a besoin. C'est ça qui nous protège, c'est ça qui nous donne notre identité. Mais quand ils sont trop longs, c'est comme quand tu fais trop de squat. Ou quand tu manges 4 morceaux de gâteau au lieu de 1. 1, c'est bien. 2, ça va. Mais 4, c'est de la gourmandise. Même chose, les cheveux qui poussent trop longs, c'est la symbolique des moutarots, de ce qui est superflu dans l'utilisation de ton corps. Ok? Donc ici aussi, quand la femme, elle doit se couper les cheveux, c'est-à-dire la tchouva, elle démarre par là. Ça veut dire que le corps, tu ne le supprimes pas, mais tu lui limites son champ d'utilisation. Vers moutarot, et les choses superflues, mes chounim sont appelés bechem searot, au nom des cheveux. Chez tsarich les galechan, on doit les raser, les couper. Mais achar chez Naminat Sorer, quand ce n'est pas utile. Ok, donc ça c'est la première phase. Deuxième phase, Ve'asta et Tsipornea, elle fait ses ongles. Dehainu, c'est-à-dire, c'est quoi se faire pousser les ongles? C'est devenir vilain. D'accord? Quand les ongles ils poussent, ils sont sales, etc. C'est quoi se rendre vilain? Dehainu, les navel et atzmo, c'est s'humilier, ou le bazot, et se mépriser. Al-Mahasa va raïf sur ses mauvaises actions. C'est-à-dire, c'est la deuxième phase, c'est-à-dire se dire, bon, j'ai fait beaucoup de bêtises, d'accord, et de les regarder et les accepter et les regretter, ce qui est la phase habituelle de la tchouva. Troisièmement, Ubarta et Avia Vetima, Yerach Yamim, elle doit pleurer, cette Neshama, donc c'est moi, d'accord, pour pouvoir la récupérer. Le père, elle doit pleurer son père et sa mère, Yerach Yamim, un mois. C'est quel mois, Haïm? C'est tout le mois de Elul. Tsarich livkot al avonotav. Cette neshama, elle doit pleurer sur ses avonot. Asher al yadam, que à cause de nifrad, il s'est séparé. Mais à vivre, c'est quoi pleurer le père et la mère? Le père, c'est Akadosh Baruch Hu. Veimo et la mère, Knesset Israël. C'est l'assemblée d'Israël, parce que la neshama, c'est une partie. Toutes les neshamot, elles sont liées. Donc la Neshama, elle pleure, la mère, sa mère nourricière, la matrice, c'est-à-dire l'ensemble du clan Israël duquel elle était issue, et le père c'est Akadosh Baruch Hu. Mais Acharkar, et après, t'avoue Eléa, tu peux aller avec elle. Une fois qu'elle a fait tout ce processus, qu'elle a coupé les cheveux, qu'elle a laissé pousser les ongles, qu'elle a pleuré, le père et la mère, c'est-à-dire qu'elle a eu que tu as ressenti l'éloignement qu'il y avait entre Akadosh Baruch Hu et le clan Israël, eh bien à ce moment-là, tu peux te rapprocher de cette Neshama. Tu peux l'épouser. Tu peux, ça veut dire quoi, l'épouser, t'attacher à elle et dire oui, c'est mon épouse. Qui a rien, itmar merout, car après la tristesse, ve'abéhi et les pleurs, ve'aprichut et la séparation, ivada lecha, tu connaîtras, malat aneshama, le niveau de cette neshama. C'est-à-dire, c'est seulement après un mois de processus et tout ça que tu vas te rendre compte c'est quoi sa neshama. Qu'en réalité, si un homme il avait conscience de la princesse qu'il avait à l'intérieur de lui, eh bien, il se comporterait bien. La même chose, comme il n'est pas là d'un nous, mais c'est la même chose quand, pendant les fiançailles. Oui, on se comporte comme un gentleman. Et on fait tout ce qu'il faut et on est délicat, etc. parce qu'on a conscience. Et... Mais une fois qu'on est marié, 2 ans, 3 ans, 10 ans de mariage, on est moins gentleman. Parce qu'on s'est habitué à cette neshama. Mais si Béhémet, quelqu'un, il était marié avec une femme princière, alors il se tiendrait toujours bien. Il changerait tous les jours de chaussettes, il ferait attention à comment il se tient, comment il mange, etc. La même chose pour la neshama. Oui, si Béhémet, un homme, il avait conscience, c'est quoi la princesse qu'il a en lui, c'est-à-dire c'est quoi cette neshama, la grandeur de cette neshama, alors il se tiendrait bien quand il fait les brachot, il s'arrangerait quand il fait la tuila, il parlerait correctement, parce qu'il ne va pas la choquer cette neshama. Des fois on dit des bêtises, on dit de la cholara, et ce qu'on n'aurait pas dit devant quelqu'un qu'on estime. Et en réalité, il doit avoir ce regard à l'intérieur de lui, il a une première femme, à part sa femme qu'il a normalement, mais il a une autre femme qui est outrée quand il dit des bêtises et quand il ne se comporte pas correctement. Elle est outrée et quand elle en a marre, elle se met dans un coin, elle se sépare de lui. Donc en réalité, c'est cette vision-là. C'est ça, la femme belle, la yéfatoire, la captive yéfatoire, c'est elle. Omna. Regardez ce dernier paragraphe, il est très joli. Donc jusque-là, donc c'est un autre regard, vous voyez. Omnam, cependant, miderech haolam, c'est l'habitude du monde. Tout le monde est bon ? On est au point.
La chou.
Omnam. Binyamin, t'es bon ? Au point. On est au point. 2, 4, 6, 8 lignes du deuxième paragraphe. Omnam, cependant, miderech haolam, l'habitude du monde, la chouv bitchouva, c'est de faire tchouva adahar yom kippur. Ce qu'a pris Kippour. C'est-à-dire là, tu vois, faut pas exagérer. La majorité des gens, jusqu'à Kippour, ils tiennent bon. Le lendemain de Kippour, plof, c'est fini. Shiouyom Adin Agadol, parce que c'est le grand jugement. Avoir la harichen, mais après ça, baravonotenu arabim, par nos fautes, kol adam shavle darko. Tout le monde revient dans sa route. En général, la tchouva, elle tient un mois et 10 jours jusqu'à Kippour. Mais après, plouf, en général, pas toujours. Shavle darko, ara'a. Son mauvais chemin qui est varishona. La reine, c'est pour cela, is irakatuv. Il t'a mis en garde le verset en te disant, c'est quoi la fin de la feyfatoar? Ve'ayaim lo chavat staba. Si tu la désires pas, tu peux pas la revendre, tu peux pas la mépriser, tu devras la renvoyer avec honneur. C'est-à-dire, pirouche, im tosif od la chato. Si tu vas rajouter des fautes, chas v'shalom, ça veut dire attention mon ami, tu as fait tout ce processus, tu as vu que tu as épousé une princesse, etc., jusqu'à Yom Kippour, et après tu replonges, mais chez l'artal et nafsha, tu devras la renvoyer. Ça veut dire quoi la renvoyer? Az, alors, aneshama tipared mimcha. L'aneshama se séparera de toi. Ça veut dire qu'on sait qu'en réalité, l'aneshama, on a dit, elle est dans un coin de la poche, mais en réalité, l'aneshama, elle n'est pas toujours dans le corps. Elle peut même être séparée du corps, comme on sait qu'il y a Nefesh Roar Neshama, il y a encore deux autres parties, la Raya et la Yerida, qui n'intègrent pas le corps, très rarement, seulement dans des grandes tzadikim. Eh bien, en réalité, même la Neshama, donc qui est la partie la plus accessible pour nous, même la Neshama, quand un homme il fait trop d'averot, elle peut se séparer. C'est ce qu'on appelle dans Karet. Karet, c'est-à-dire qu'on a coupé le lien entre la Neshama et nous. Ça veut dire qu'on devient comme un goy. Ça veut dire qu'on n'a pas de neshama, on a coupé le lien avec la neshama. Alors quoi, mais tu fais des mitzvot. D'accord, tu fais des mitzvot comme un goy. Un goy, il mettrait les tefillin, il ferait Shabbat. Pas tout à fait pareil, parce qu'il y a encore quelque chose. Mais en réalité, c'est pareil, c'est presque pareil. On fait des choses par habitude, par éducation, etc. Mais on ne nourrit plus notre neshama. Notre neshama, elle est au-dessus de nous. C'est ce qu'il dit. Si après le mois, eh bien, tu retombais, eh bien, sache que la neshama, elle ne va pas rester longtemps captive. Elle retournera chez elle. Tu parais d'un neshama. Elle se séparera la neshama mimcha de toi. Velo tavo elecha. Elle reviendra plus chez toi. Od. Tacha tacherinita. Parce que tu l'as faite souffrir. D'accord ? Il reprend les termes qu'on a dans la Yeshiva Torah. Parce que tu as fait souffrir cette lame-là. Pendant tu lui as fait miroiter des choses, tu lui as fait miroiter que tu allais marier Rebekah, etc., que tu allais lui faire un palais, etc. Et dès que c'est fini Kippour, tu recommences tes bêtises. Ah, elle te dit, mon ami, je ne peux pas te faire confiance. Je croyais que tu allais m'offrir une vie de rêve, mais je vois que chez toi, ce n'est pas le bon, c'est pas le bon plan. Rak, Ir et Adam, on lui dit, c'est pour cela, Ir et Adam, il doit voir l'homme, Kol Asher Yekabel Alav, que tout ce qu'il accepte sur lui pendant ce mois-là, Lishmor v'la'asot, il doit le garder et le faire. Ouais, Lishmor v'la'asot, il doit le garder et le faire à l'avant-dernière ligne. Yelo chok, ça soit une règle, berit olam, une alliance éternelle, de conserver les décisions qu'il a prises vis-à-vis de sa neshama, la'asot retzon Hashem itbarach, pour faire la volonté d'Hashem itbarach. Amen.
Amen.
Vous voyez ? Voilà. Chavez.